Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
C'est une histoire qui débute en mai 68 avec la cavalerie. Elle continue près d'un demi-siècle plus tard. Sans doute parce qu'il semble n'avoir que peu de prise sur lui, avec Julien Clerc, le temps a passé sans qu'on y prête attention. Qu'a-t-il fallu pour que dure son histoire de chanteur ? Un talent d'interprète, l'amour de la scène et de la création. L'art de l'alchimie heureuse entre ses mélodies qu'il dit intemporelles et les mots des autres. Le goût de la rencontre avec des auteurs nouveaux au fil des années. Une manière élégante d'être à la fois classique et de son temps, d'aller de l'avant sans trop se retourner. Une pudeur quitter le privé et partage l'intime, le roman d'une enfance entre deux rives, des arrière-pays, des drapeaux, les rues de Bourg-la-Reine et le bleu des Caraïbes. En 2006, Hélène Azéra recevait Julien Clerc dans Chanson Boom. C'était à l'occasion de la sortie de son album « Double enfance ».
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant ?
Une chanson ? Pourquoi faire ?
Pour la chanter.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Chanson Boom, la chanson en question, entretien avec les acteurs de la chanson contemporaine par Hélène Azéra.
Bonsoir,
bonsoir,
monsieur Julien Clerc.
Vous avez même un... Vous avez même Salvador, hein, vous vous souvenez,
oui.
Là, Mister Boom Boom.
Voilà, c'est un vrai bonheur de vous avoir. Et puis, on est là pour parler du présent et pourquoi pas de l'avenir. Mais bon, le passé, il est toujours un petit peu présent. Alors moi, je voudrais démarrer. Il y a une vingtaine d'années, le mot chanson était presque devenu un mot sale. Tous les chanteurs voulaient être rock, pop, etc. Mmh. Et là, tout d'un coup, moi, j'arrive plus à retrouver mes petits. On a l'impression que chaque fois qu'on fait un pas quelque part, il y a un nouveau chanteur en train de vous chanter des petites chansons. Il y a une floraison incroyable.
Oui, mais c'est aussi parce que je crois que chaque génération réagit par rapport à la précédente.
Oui.
Et comme dit mon très cher ami Sacha Reims, Christ, on va dire ex-critique dans des magazines rock et maintenant écrivant dans Le Point, c'est normal, dire on a parfois l'impression avec les chanteurs français nouveaux que les Beatles n'ont pas existé. Il a un petit peu raison. Mm-hmm. Un petit peu raison. Il y a une espèce de retour comme ça, je trouve, moi, à la chanson réaliste, un peu comme ça.
Comme on peut dire que pour les yéyés, Léo Ferré n'avait pas existé, ou voilà. Brel n'avait pas existé. C'est la réponse du berger à la bergère.
Ouais.
Est-ce que vous auriez imaginé qu'il puisse y avoir un tel retour et puis aussi cette floraison de l'accordéon, cette espèce de chanson Java rock qui se réclame de l'héritage des années 30.
Ouais, moi ça m'étonne pas trop. Et puis en plus, je suis très ouvert, j'ai toujours écouté plein de musiques différentes, depuis toujours. D'ailleurs, je crois même que c'est une question d'éducation. J'ai fait partie de deux foyers où il y avait deux musiques bien distinctes. La musique classique d'un côté avec la vieille chanson française. Alors, je parle de la vieille chanson française, tendance les quatre barbus, vous voyez.
Oui.
Et puis, quand j'allais chez ma mère le week-end, la chanson et même le jazz ou la chanson américaine. Alors, j'ai eu de la chance parce que.
Et puis le classique.
Et puis,
quand même, le
classique dans l'autre maison.
Dont vous avez voulu vous débarrasser à un moment, mais qui finalement vous a donné quand même de très sérieuses bases.
Ouais. C'est pas que je voulais plus faire de piano, malheureusement, comme beaucoup d'enfants, qui le regrettent quand ils sont adultes. Parmi les regrets qu'ont certaines personnes et ils reprochent à leurs parents de ne pas les avoir obligés à continuer. Simplement, c'est très difficile de continuer quand un enfant de 12 ans, 13 ans, a plus envie de prendre ses cours de piano, etc. Moi, j'ai une chance, c'est que je m'y suis remis tout seul vers 16-17 ans. Mmh. Ce qui est une chance. C'est comme ça qu'un jour, parce que je voulais quand même rester devant ce piano, où j'ai inventé je me suis rendu compte que je pouvais inventer moi-même de la musique avec ce que j'avais, l'acquis que j'avais, en posant mes mains comme ça sur un clavier, faire des harmonies sans trop savoir ce que c'était. Enfin, tout ça. Et le jour où j'ai découvert ça, je pense que c'est là que ma vie a basculé.
Alors, vous savez que avec l'âge, on prend de la bouteille et on prend de la philosophie. Autant c'est insupportable à 20 ans de perdre un ami, c'est une douleur terrible. Autant quand le temps un peu a passé, c'est toujours une douleur aussi insupportable, mais on sait que c'est dans la logique des choses. Donc, je vous parle de ça pour parler d'une chanson que vous avez écrite avec Étienne Rodagil, qui a été un espèce de compagnon de route.
Mais il a été plus que ça, parce que, enfin, en réfléchissant un peu, grâce à ces nombreuses interviews que je fais toujours en période de promotion, je me suis dit que si j'avais pas rencontré Étienne en premier, quand j'ai décidé de trouver un parolier pour mettre des mots sur mes musiques, peut-être ma vie aurait été autre. Mm-hmm. Parce que pour la bonne raison, déjà, qu'il n'était pas un parolier. Il était... Or, ma chance, ça a été à 20 ans de tomber sur un type qui n'était pas dans les canons de l'écrivain de chansons habituel, si vous voulez. Et pourquoi je dis que ça a conditionné toute la suite? Parce que lui, c'était pas quelqu'un à qui on demandait un sujet de chanson. On lui disait pas, écris-moi une chanson là-dessus ou là-dessus. Ça me serait jamais venu à l'idée. J'attendais qu'il m'apporte le produit de ses flashs ou de cette inspiration si peu commune. Et c'est une attitude que j'ai gardée après avec les autres. J'avais pris l'habitude de ne pas demander, de ne pas me mêler des paroles. Je dis ça parce qu'on m'a posé tellement de fois la question. Et même un jour, je n'ai pas écrit beaucoup de chansons avec lui. Mais quand Jean-Claude Vanier m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise dans les chansons ?» Je lui ai dit « Mais alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée de ce qu'on peut dire. Je n'ai pas été habitué à ça avec
Pourtant,
Étienne. »
Vous savez qu'il y a beaucoup de grands chanteurs qui ont donné ce qu'on appelle le départ de beaucoup de grandes chansons. Qu'il pouvait donner d'ailleurs à des grands auteurs. Piaf souvent donnait la phrase de départ, par
bien
exemple,
sûr,
ou la phrase de départ du refrain. Vous
non, jamais. Et là, je me suis permis de le faire à mon 20e album cette année, enfin l'année dernière. Donc parce que là, tout d'un coup, je me suis dit, je vais me mêler un tout petit peu plus. Il y avait un ou deux sujets de chansons qui me tenaient à cœur. Bah, avec Étienne, je lui ai demandé une fois pour une chanson qui s'appelait « Souffrir par toi n'est pas souffrir », parce que j'étais très malheureux et tout ça. Et donc là, il l'a fait, d'ailleurs très bien, je trouve. Il a fait une très jolie chanson parce qu'il faisait toujours des trucs sous un angle, si on veut parler comme les journalistes, sous un angle personnel et toujours différent des autres. Donc, je voulais une chanson pour retenir une femme. Alors, il m'a écrit « Souffrir par toi n'est pas souffrir », ce qui était génial. Mais
ça a marché?
Non, pas du tout. mais la chanson, je la chante aujourd'hui. C'est
d'accord,
ça qui a marché.
C'est l'essentiel. Donne-moi de tes nouvelles. Il y a une histoire
je
derrière
crois.
Cette chanson.
Alors, il a amené...
C'est une chose qui vous a adressé à vous personnellement
du
ou
tout.
C'est une histoire de sa vie personnelle?
Je pense que c'est la énième chanson sur Nadine. D'ailleurs, il avait mis en sous-titre la chanson. Il s'était trompé, d'ailleurs. Il avait écrit... Vous savez que Étienne, il avait toujours la même machine à écrire. C'est ce qui m'a permis un jour, parce qu'il a toujours parlé de mes infidélités, mais les siennes ont été nombreuses. Et un jour que j'amenais des nouvelles chansons chez Jean-Claude Petit, j'ai reconnu tout de suite les caractères de la machine à écrire d'Étienne. Et ça s'appelait le Lac Majeur. J'ai dit, tiens, on ne me l'a pas donné, celle-là, ce texte-là. Bon, c'était une belle chanson qu'a chanté Mort Schumann. Alors, il écrivait, et de temps en temps, il rajoutait, par exemple, il barrait, quand je lui demandais de changer un mot, n'importe quoi, souvent, on corrigeait sur les caractères de la machine à écrire, et là, il écrivait avec son écriture.
Ce que vous demandiez, excusez-moi, de changer, c'était pas des choses euphoniques, genre un I, un O, un U, ou c'est carrément un mot qui ne passait pas par vos lèvres?
Même des pans entiers de chansons.
Je crois qu'il me pardonnera, ou si des fois son côté grandiloquent, vous disiez non, là
c'est vraiment
pas possible.
Oui, ou certains mots, je disais tiens, celui-là il est trop, ce mot-là, enfin, comme je fais
par
avec
exemple,
tous les autres.
Par exemple, il y a des mots, vous pouvez les souvenir.
Je m'en souviens plus. Oui. Parce que N'est-ce pas? Il avait tellement tendance à me dire, tiens, Polo, fais ce que tu veux, que... Donc, après, évidemment, avec son aval, mais je lui disais, écoute, je pense qu'on pourrait enlever tout ça, remonter ça là, le mettre là, qu'est-ce que tu en penses? Ouf, comme tu veux, comme tu veux. Et donc, sur cette chanson en particulier, il avait mis en sous-titre, et il s'était trompé historiquement, la chanson d'Ulysse pour Eurydice. Et ça, sur la feuille, je l'ai manuscrit.
C'est Orphée.
C'est Orphée, bien sûr. Donc, il s'est gouré. Et ça, par contre, c'était écrit à la main. Mais tout le reste de la chanson, il me l'a donné, comme il m'a toujours donné toutes les chansons, à de très rares exceptions près, tapées à la machine. Ça, je crois que c'est la énième chanson sur la douleur de la séparation.
Comment la mélodie est arrivée?
Assez vite. Assez vite.
Vous aviez une idée dès le départ, il faut faire une...
Non. Ou alors...
Comment vous faites? Vous mettez au piano, vous commencez à chantonner?
Ouais, quand je vais faire un album, ce que je fais, j'ai une part de travail solitaire. J'amorce la pompe à mélodie, si vous voulez. J'essaie de trouver 2, 3, 4 musiques. Certaines que j'estime finies et que je donne comme ça. Mmh. Certaines dont je pense que c'est des départs ou des fins ou des milieux, bon, et je me les garde. Bon, je pense que sur cette musique de cette chanson là, il y avait quelque chose que j'avais déjà, si vous voulez. Et puis après, j'essaie de le faire, je l'adapte ou je me dis tiens, ces accords là que j'ai trouvé l'autre jour, ils iraient bien sur ce texte là. Il avait tellement l'habitude, en fait, Étienne, que j'écrive très très vite, que souvent il me donnait le truc puis il restait planté derrière, espérant que j'allais trouver comme ça. Alors c'est vrai que je trouve vite, mais moi je suis un peu pudique et j'aime pas quand la personne est derrière.
Comme quand on pêche à la ligne et que quelqu'un regarde derrière.
Voilà. Mais enfin, je sais que sur celle-là, je l'ai rappelé très vite. Hein. Le lendemain, je l'avais faite. Généralement, quand je suis inspiré par un truc, j'ai encore cette chance, touche du bois en disant ça, oui, de pouvoir inventer une mélodie assez vite. Au fond d'un lit que le soleil caresse, je pense à toi, ma déesse. Où es-tu dans ce monde perdu? Sous quel horizon de flammes, de palmiers, de palais ou de drames? As-tu caché ton corps parfait? Rien n'est parfait dans ce monde. Seule la soif qui m'inonde. Au souvenir de ton sourire, je ne veux pas vivre de souvenirs parfaits, comme la terre est ronde, qui t'a arraché du monde. Oh, donne-moi de tes nouvelles, tu me feras la vie plus belle, et je viendrai te chercher. Ce soir je vais m'endormir encore, rêver du parfum de ton corps, de ton sourire qui disparaît. Rien n'est parfait dans ce monde. Seule la soif qui m'inonde. Au souvenir de ton sourire, je ne veux pas vivre de souvenirs parfaits, comme la terre est ronde, qui t'a arraché du monde. Oh, donne-moi de tes nouvelles, tu me feras la vie plus belle, et je viendrai te chercher. Au souvenir de ton sourire, je ne veux pas vivre de souvenirs parfaits, comme la terre est ronde, qui t'a arraché du monde. Oh, donne-moi de tes nouvelles, tu me feras la vie plus belle, et je viendrai te chercher.
toujours l'idée de pas donner d'être peut-être un peu triste, mais jamais macabre.
Ah oui, bien sûr. Assez triomphant, comme il disait.
Alors bon, évidemment, on pourrait parler pendant des heures d'Étienne Rodagile. Je me souviens, je ne sais pas si vous a raconté, il m'a raconté que dans sa jeunesse, quand il était un jeune anard, c'était lui qu'on envoyait voir les grandes notabilités pour leur tirer des sous pour la cause, et qu'il était notamment, c'est lui qui allait voir Picasso pour demander de l'argent pour la fédération anarchiste, et que du coup il avait espionné ce que chantait Picasso en peignant ses toiles, et qu'à sa grande surprise il s'est aperçu que Picasso chantait tout le répertoire 1900, genre frou 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 frou. Et maintenant quand je vois un Picasso, j'imagine une voix en train de chanter frou frou ou des choses comme ça. Alors, on va parler des nouveaux arrivants dans votre cheptel d'auteurs.
Oui.
Alors, ce Gérard Duguay, par exemple, comment vous l'avez rencontré ?
Il a envoyé des textes. C'est Bertrand de l'Abbé qui a repéré son travail sur le disque d'une chanteuse qui s'appelle Alexandra Ross.
Oui.
Et qui a, Bertrand de l'Abbé, depuis toujours, fait ce travail-là.
De repérer les auteurs.
De repérer. Il continue de faire un travail d'éditeur, alors qu'aujourd'hui, évidemment, le cinéma le prend énormément, mais il a gardé, je crois qu'il a eu une rencontre très importante dans sa vie quand il a connu Monsieur Breton. Mm-hmm. Donc, il a connu les grands éditeurs, le grand esprit de l'édition de chansons françaises. Il garde ça. Et donc, il fait, avec moi, souvent même pour moi, j'ai envie de dire, un travail de recherche. Mm-hmm. Il sait que, par exemple, quand je dois écrire un disque, c'est bien que je puisse m'appuyer sur un texte avant d'avoir les textes de mes auteurs. Parce que tous ne sont pas comme était Étienne. Étienne, beaucoup des chansons ont été faites sur les textes. Mmh. Je préférais faire la musique sur ses textes que de lui donner des musiques. Il était moins bon, Étienne, pour mettre ses mots dans la musique. Voilà, il était moins bon. Il fallait prendre l'essence qui venait de lui. C'était ce côté poétique un peu comme ça. Bon. Alors, donc... par exemple, je sais qu'on en parlera plus tard, mais de la Béma, c'est lui qui m'a apporté le truc de Marceline Desbordes-Valmore. Mm-hmm. C'était en début de cycle, quand je commence à composer pour un album.
Ah, vous aimez bien avoir un grand texte au départ.
Un texte pour, comme ça va donner ça va un peu me lancer pour commencer à prendre
qui donne le ton.
Voilà. Donc là, c'est lui qui avait repéré le travail de Duguay Grasset pour Alexandra Ross et qui a demandé des textes. Mais nous avions déjà presque tout enregistré carrément. Et puis, vous savez, des fois, moi, je pense que j'ai tout donné. Je me dis, bon, maintenant, on est en studio, c'est fini. Puis, vous voyez, c'est idiot, puisque j'ai écrit la chanson, la musique de Place Clichy, alors que tout le reste était presque enregistré, déjà.
Ça, donc, c'est une aquarelle,
ouais,
presque.
C'est très original.
C'est des petites touches impressionnistes et en même temps assez réalistes.
Ah oui, mais c'est vraiment, je trouve ça... original, carrément. Mmh. D'ailleurs, j'ai vu le personnage, c'est quelque chose. Et donc, il m'a dit d'abord qu'il n'aimait pas du tout la chanson française. Hein, que... Je lui dis, pas de problème. Et donc,
Moi non plus, je déteste ça encore plus.
Et donc, il écrit pour des revues très... comme ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, pour, des revues pour initiés.
Oui.
Hein, après avoir été champion du monde de backgammon et avoir beaucoup joué au poker, on a eu une première entrevue un peu surréaliste, formidable. Il me dit, tu sais, c'est pas parce que moi maintenant je clochardise. Il me dit, mais avant j'étais pas mal. C'est un personnage vraiment, vraiment extra. Et ce que j'ai reçu de lui, tout, comme c'était la fin, j'en ai mis qu'une en chanson. Mmh. Le reste, il aurait fallu un peu plus de travail. Mais il y avait 4-5 débuts de textes vraiment intéressants, tous. Mmh. Ce qui me fait dire que ce personnage est porteur, il a beau détester la chanson française, il est peut-être porteur dans les années qui viennent de quelques très bonnes chansons.
On écoute Place Clichy, donc Gérard Duguay.
Grasset.
Duguay-Grasset. Voilà. Julien Clerc, auteur et chanteur.
En avant-plan, la pluie et le ciel anthracite. Derrière la place Clichy, les Batignolles à droite.
Voici le métro, la bouche, et là, la pharmacie. Voilà la place Clichy, la pluie et la rue d'Amsterdam, le billard, les phares et le brouillard, un bruit mat, l'eau sous les roues, c'est rouge, une nappe, un mur de bruit. Le lycée Jules Ferry et un quart de touristes. La pluie, la place Clichy, un coup de parapluie. La nuit tombe sur Paris, sur la pluie froide et fine. Voilà la place Clichy, la pluie, le tabac, les lumières, le Veblen, et sur la gauche la rue Caulaincourt qui monte vers le cimetière. C'est le ciel qui commande.
Comment on met en scène une chanson aussi contemplative ?
Bien, pour le coup, je pense qu'il faut être très très immobile, mais c'est surtout que c'est un texte, tous les textes sont au cordeau, mais ça c'est une chanson où il n'y a pas d'effet, et il y a un texte qui n'a l'air de rien, mais qui parle... Le fait que le mot pluie revient je ne sais combien de fois dans le texte, jamais placé au même endroit, enfin, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à la voir, celle-là, parce que on peut jamais se tromper dans une chanson, mais dans ce genre-là, encore moins. Parce que, justement, il n'y a pas d'effet. Donc, on est accroché à l'histoire.
Et il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire. Donc, on ne peut pas se tromper. Voilà. Vous pouvez vous tromper. Si un jour je prends certaines de mes chansons, je peux me tromper sur Mélissa. Ça, les gens rigoleront. Une fois, ils rigoleront. Bon. Mais je veux dire, il y a des chansons sur lesquelles... Mais là, on peut pas. Alors j'ai mis du temps vraiment à l'avoir, celle-là.
Et mais il n'y a pas de suite logique. En plus, c'est très
non,
difficile,
rien.
C'est difficile
voilà.
À mémoriser.
C'est difficile à mémoriser.
Et alors, vous mettez en devant de la scène?
Oui, ou... en devant. Très peu d'effets de lumière, avec juste la tête qui bouge un peu. Si, oui. Enfin, je reviens. Pour la scène, il fallait revenir après le solo d'accordéon. Là. Mm-hmm. Vaut toujours mieux. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve. Je trouve qu'il vaut toujours mieux terminer une chanson par la voix de l'artiste, mm-hmm. plutôt que par la musique. Mm-hmm. Ça termine toujours mieux une chanson.
C'est comme une signature, là.
Moi, je trouve.
Les dernières notes.
Surtout quand ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je reviens juste pour répéter que c'est le ciel qui commande ici. Voilà, juste à la fin du solo. Et c'est non. Je regarde la salle comme si je regardais la place. Comme j'imagine que je regarde la place Clichy. Non, je regarde beaucoup les gens, en fait.
Vous regardez comme, les gens?
Oui, comme un badaud. Bon, enfin, je regarde les gens, j'ai pas beaucoup de mal, ils sont dans le noir. Oui, donc,
d'accord. Il n'y a pas cette peur de voir les visages, comme au cabaret, où on voit les visages en face de soi.
Ça, c'est dur. Hein. C'est terrible, ça. Hein. C'est difficile parce que ça gêne tout le monde. Quand on est trop près, comme ça gêne aussi le public, du reste. Mm-hmm. Et encore, j'ai fait des programmes et au début, j'étais terriblement... Autant ça ne me gênait pas de voir un trou noir comme ça, mais quand on voit les gens, c'est, ça a un petit côté gênant, quoi.
Double enfance, alors c'est une chanson autobiographique que vous n'avez pas écrite.
Voilà. Mais avec Maxime Le Forestier, enfin, Maxime, il prétend que... En fait, il met dans les chansons plein de choses que je lui dis, mais comme... Je ne fais pas attention, je ne m'en souviens pas. C'est possible. Là, je me souviens très bien de ce que je lui ai dit. Oui. D'abord parce que il a vécu ça lui-même, même s'il l'a vécu de façon différente. Mais il a vécu.
Bon, c'est une chanson qui peut toucher énormément de gens, puisque bon, maintenant,
c'est devenu assez banal,
un papa et une maman, c'est pas forcément la chose classique aujourd'hui.
Voilà. Alors. Il y avait deux choses. Un, il l'avait vécu, et il me semblait qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu, parce que c'est une chose que ne comprennent pas les gens qui l'ont pas vécu. Ils ne comprennent pas quand ils pensent qu'on fait du pathos là-dessus, qu'on continue de jouer de la comédie toute sa vie là-dessus.
Là, c'est deux gâteaux d'anniversaire. C'est plutôt... Il y a des côtés très positifs.
Hein. Oui. Mais enfin, avec le petit côté... c'est un sourire en coin, enfin bon, un peu jaune, quand Maxime écrit ça. Mais je lui ai dit des certaines choses précises, d'aller d'un foyer à l'autre, parce que moi, je l'avais vécu comme ça, puis beaucoup d'enfants le vivent comme ça. Donc. Et puis, la deuxième chose que je savais, donc d'abord, il l'avait vécu, et puis je savais qu'avec lui, pour le coup, il n'y aurait pas trop de pathos. D'ailleurs, sur la première version, pour le coup, il n'y en avait pas assez. Hein. Je lui ai dit, Maxime, bon, c'est bien d'être pur et dur, mais on met un petit peu de... Alors, d'accord, on n'est pas là pour faire pleurer les gens, mais rajoute-en un peu. Parce qu'au début, il avait fait comme il sait bien faire, Maxime, c'est-à-dire, c'était distancié, un peu trop à mon goût. Donc, je voulais surtout, donc, il a écrit le texte, hein, oui, c'est ça. Et j'espérais beaucoup que c'est un texte sur lequel je pourrais mettre une musique enlevée. Parce que je voulais pas tomber dans la balade pleurnicharde.
Dans la chanson réaliste.
Voilà. Et que, enfin, quand on arrive à dire des choses graves dans une chanson up-tempo, comme disent les anglo-saxons, je trouve que c'est ce qui est de mieux réussi. Mais enfin, c'est ce qui a été beaucoup fait dans la musique des Caraïbes en particulier. Beaucoup de choses graves, des fois, se disent dans des chansons enlevées, comme ça.
On va vous écouter, donc, Double Enfance, texte Maxime Le Forestier, musique et chant Julien Clerc.
Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance, pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage, chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire. Multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle n'est pas à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Secondes, le temps n'est plus un souci, elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie.
Là, c'est qu'une question de tempo,
oui.
on peut la ralentir, oui. La chanson.
Elle a
si
quand
on
même
veut.
Été écrite. Il y a quand même un tempo idéal pour les chansons. Alors, ah si.
Ah, vous n'aimez pas que les gens qui prennent la vie en rose et qui en font une chanson punk
Attendez, ça, pas forcément. Non, non, ils peuvent très bien faire une chanson punk. Ce qui me gêne le plus, c'est un des grands débats, oui. D'ailleurs, avec Le Forestier.
Oui.
C'est quand il touche aux harmonies. Ça, je comprends. Si un compositeur a fait des harmonies précises, il y a une raison. On peut faire tout ce qu'on veut si on respecte l'esprit de la chanson. Mais si on dénature la chanson, c'est-à-dire si on dénature ce que le compositeur a fait, c'est pas pour rien s'il a fait tel accord, c'est pas pour rien s'il a mis là une septième ou une neuvième, ou allons, aller savoir des choses. Je sais que, par exemple, là, j'ai été participer à un truc, bon, naturellement, j'ai encore dû passer pour un emmerdeur, mais j'ai été participer à un truc contre la discrimination. Mmh. Alors, on chante Douce France. Ils ont pris la version de Rachid Tah. C'est pas mal. Sauf qu'à un moment donné, il y a un passage qui est absolument magnifique. Et si Trenet a écrit comme ça, c'est qu'il y a une raison profonde. C'est une raison, c'est même pas expliqué d'ailleurs. Vous savez, le refrain. Ce passage-là. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans la chanson. C'est ce changement d'harmonie, ce changement de mode, ou que sais-je, je sais pas comment ça s'appelle. Ne pas mettre ces deux accords de suite. On a beau, j'ai dit, mais alors je chante la mélodie originale. Ta-da-di-da-di-da-da. Ils me disent, oui, ça passe. Oui, voilà, effectivement, ça passe. Ça passe, mais c'est pas sur les harmonies originales. On peut faire ce qu'on veut si on garde, si on ne dénature pas la chanson. Là-dessus, je suis hystérique. Alors évidemment, je commence.
Non, vous êtes musicien. Vous êtes musicien.
Non, mais vous en avez que ça gêne moins. Mais moi, ça me gêne terrible. Et ça fait partie, c'est étrange d'ailleurs, des choses qui peuvent me mettre en rage. Me rendre méchant, je pense pas être d'une nature méchante, mais ça, ça peut me... Alors, il y a encore raison de plus, si ce sont mes propres chansons. Et quand on avait fait un disque à New York avec Phil Ramone, Dieu sait que Phil Ramone, c'était un producteur de grands albums, on a tous au moins un ou deux albums de Phil Ramone chez nous. Bon, eh bien, quand donc il était, c'est lui qui s'occupait de la production, celui qui convoquait des musiciens. Alors il m'avait dit, tu sais, c'est bien sur un disque, comme tu fais ton disque à New York, c'est bien d'avoir une ou deux personnes emblématiques qu'on va faire venir. C'est bien des gars dont on a vu les noms sur toutes les pochettes. Alors bon, donc on avait fait venir Michael Brecker, qui est un fameux saxophoniste, qui est un grand saxophoniste, doublé d'un type absolument charmant. Et puis un autre grand guitariste, je ne sais plus. Bon. Et puis il avait dit, et il leur disait une seule chose. Il disait, bon, on va y aller, faites attention. Il disait en anglais, this guy is very fussy about his chords. Ça veut dire, ce type, à propos de ses accords, il est très tatillon. Bon. Et les mecs, ça les faisait rire. Mais quand on dit ça à un musicien, généralement, c'est un message qui est reçu. Parce que c'est un message que les musiciens comprennent. Ça. Les musiciens, ils comprennent que quand on touche à la musique de quelqu'un, c'est comme on touche à un organe vital.
Vous savez que Joseph Kosma pleurait. Il disait, mais tous les autres musiciens ont joué leur musique comme ils l'ont écrit, pourquoi pas la mienne?
Mais voilà,
exactement. Et c'est vrai que les versions des Feuilles mortes, il y en a pour Kosma, ça devait être difficile à écouter.
On peut, par exemple, si on entend la version originale de certains trucs de Gershwin jouant lui-même ces trucs. Bon, il jouait, je ne sais plus quelle musique extrêmement connue, je pense que c'est Rhapsody in Blue, où il joue à 100 à l'heure, il le jouait très très vite, lui, la version originale. Évidemment que c'est presque carrément même plus beau de... Lui, il faisait pam 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 pam. Bon, c'est rigolo, mais c'est presque plus beau de le jouer lentement, pas comme lui le jouait. Mais ça, on ne dénature pas sa musique parce qu'on respecte ses harmonies si compliquées et si belles qu'il a faites. Donc c'est pas une question de rythme, c'est une question de dénaturer l'esprit de la chanson. Voilà.
On va écouter Rester.
Oui.
Donc, parole Carla Bruni, musique et chant Julien Clerc.
Qu'est-ce qu'on pourra bien dire de moi quand je m'en irai les pieds devant, quand j'aurai fait mon temps d'ici-bas, quand il me faudra rendre tous mes soupirs. Restera-t-il quelqu'un pour se souvenir? On dira peut-être du mal, on dira peut-être du bien, le pire serait que l'on ne dise rien, comme si de rien n'était, et puis voilà, comme deux, trois petits tours, et puis s'en va. Restez encore un peu, au coin d'un œil, d'un feu. Restez sans déranger, dans vos pensées, restez. Qui s'aimera quand je serai plus là? Qui se retrouvera sous la pluie, la peau glacée, le cœur ébloui? Qui se mentira sous les réverbères? Qui se tordra les mains pour une chimère? Comme si de rien n'était, et puis voilà, comme deux, trois petits tours, et puis s'en va. Restez encore un peu, le nez dans tes cheveux. Restez dans ton sourire, oubliez de partir. Où seras-tu quand je serai plus là? Devant qui te promèneras-tu à demi-nu au creux de quel bras? Comment savoir si tu ne prends pas froid? Comment savoir si tu ne prends pas froid?
C'est pas un peu tatapoum?
C'est un petit clin d'œil aux Beatles. Ah. C'est un petit clin d'œil aux Beatles.
Qui faisait des clins d'œil eux-mêmes à la musique de brasserie.
Ah ouais, alors les Beatles, ils ont tout fait. Alors, de toute façon, c'est vrai que quoi qu'on fasse, on se cogne forcément à un moment donné à un truc qu'ils ont fait eux. Mmh. Il y avait un vrai...
Ils ont su voler à tout le monde aussi.
Peut-être, mais ça, je sais pas, je connais pas suffisamment bien. Mais mmh. Bon, le père de McCartney, où il jouait, je pense, dans des pubs, des trucs comme ça. Et puis, oui, ils ont eu le, je crois d'abord sur quatre personnes, il y en a trois qui sont super, des super inventeurs, mélodies, mmh. etc. Et puis la rencontre avec cet arrangeur, producteur, qui lui avait une grande culture musicale. Alors le mélange de tout ça, l'esprit. Puis cette facilité invraisemblable à trouver des mélodies venues d'ailleurs, quoi.
C'est curieux parce qu'en même temps, vous êtes quand même très profondément latin.
Ce que disait Étienne quand il voulait faire mal.
Et quand vous parlez de... Quand... Bah, pourquoi mais c'était...
Non, quand il voulait faire mal, parce que quand il y avait un des nombreux moments où on était fâchés, et que ça correspondait à un moment donné, justement, où j'écrivais des choses, où je me voulais peut-être un petit peu plus rock'n'roll que je ne suis. Alors il disait, il savait très bien que ça allait... Un, que le message allait arriver, deux, que le propos ferait mal, etc. Je ne comprends pas ce garçon, qui est un des meilleurs compositeurs latins de sa génération, comment il va se fourvoyer là-bas. Voilà. Mais il disait
on
ça.
On vous voit plus facilement avec Compay Segundo qu'avec Bob Dylan.
Non,
quand
mais
même.
Là, n'empêche pas l'autre, c'est Bob Dylan, il s'est toujours proclamé l'héritier de la musique folk, on sait ce que, mm-hmm. ce que véhicule la musique oui. folk, on sait les mélanges qu'il y a dans oui. la musique folk. Donc, ce qui est amusant, c'est de mélanger, je crois, les genres. À partir de où on est un auditeur, comme je suis, de mm-hmm. musique extrêmement variée, pour le coup, là, le terme variété prend tout son sens. On a envie, vous savez, il y a un côté ludique hein, dans l'écriture de la musique, de mélodie. Enfin, moi, c'est toujours été mon attitude. Et je m'amuse. D'ailleurs, j'ai jamais fait de vrai rock'n'roll, j'ai jamais fait de vrai tango, j'ai jamais fait de vrai rumba.
C'est toujours
j'ai
des fait bien clairs.
Toi, des trucs qui se percutent, qui se rencontrent de toutes les musiques que j'ai pu aimer.
Moi, je voudrais revenir à rester, à cette idée de rester. Est-ce qu'il vous arrive de penser que dans un siècle, il y a un collectionneur, peut-être plusieurs, qui vont collectionner Julien Clerc
oui.
et qui vont réécouter une chanson et qui vont imaginer des choses sur vous, comme nous, on imagine
oui.
sur les chanteurs d'il y a un siècle?
Oui, mais ça me bouleverse pas plus que ça.
Ça vous fait plaisir quand même.
Ça me fait plaisir. Mais oh, c'était un des grands débats, encore une fois, qu'on avait avec Étienne, parce qu'il me prétendait qu'on écrivait une œuvre. Bon, je disais, écoute, on écrit des petites chansons, on n'écrit pas une œuvre. Si, on écrit une œuvre, je veux que mes enfants, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Donc, c'était quand il nous est arrivé d'avoir des engueulades, c'est marrant, parce que ça portait un peu là-dessus. Il était très, très, très... Il avait une vision tout à fait politique des choses, y compris... D'ailleurs, au début, il avait une vision, il pensait... c'est vrai, cette histoire, quand on dit qu'il pensait qu'on serait... écouté, apprécié par les lecteurs du Nouvel Op, j'ai été pris en main par celui des copains, vous voyez. même Étienne se trompait. Quoique, sur la distance, il ne devait pas se tromper, mais bon.
Alors, moi, j'ai envie de vous faire écouter un grand chanteur 1900. Donc, c'est un enregistrement de 1905, donc attention les oreilles. Donc, ça, le charme d'une photo sépia ou d'une peinture un peu craquelée. C'est Mercadier, c'est le grand chanteur de romance de l'époque. Alors, dans les années 30, c'était déjà une antiquité dans les années 30, Robert Desnos était passionné en disant c'est le plus grand chanteur d'amour que les Français n'aient jamais eu. Et alors, là, je me permets de faire des comparaisons. Il y a des choses que j'aime beaucoup chez lui, que j'aime chez vous, qui est le naturel. Alors évidemment, un siècle après, on va s'apercevoir, on va d'abord entendre ce qu'il y a de pas pareil, mais au fond, il y a une espèce de naturel à chanter. Bon, il a un beau coffre, il sait s'en servir, mais il ne martèle pas les effets comme d'autres faisaient à l'époque. Et puis, il y a cette chose extrêmement curieuse, extrêmement étrange, qui fait le charme de la chanson, qui est la sincérité.
Ben, c'est ce que les Anglais appellent le feeling, peut-être, n'est-ce pas ? La sincérité, le sentiment. Le mot feeling, c'est un mot français, hein, c'est le sentiment. C'est effectivement, moi, c'est ce que je recherche toujours chez un artiste, généralement.
Donc, Mercadier, l'étoile d'amour, la poésie est de Charles Fallot et la musique du grand Paul Delmet, 1905.
Ayant fait un voyage de rêve, m'a dit qu'il existait dans le ciel radieux une étoile où jamais ne sonne l'heure brève. L'heure brève où les cœurs se brisent en adieu. Une étoile d'amour, une étoile d'ivresse, les amants, les maîtresses aiment la nuit le jour. Un poète m'a dit il était une étoile où l'on aime toujours. On y entend le soir échanger les arbres de fous baisers troublant le calme de la nuit. Auprès de nos dispos sur la fraîcheur des marbres, les femmes font bouder leurs lèvres comme un bruit. Et l'on parle d'amour, on parle de caresses. Les amants, les maîtresses aiment la nuit le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile où l'on aime toujours.
Vous acceptez la filiation?
Oui, tout à fait. Oui,
oui, il y a ce R roulé.
Voilà, ça mais, c'est la chose qui marque.
Mais en même temps, presque tous les chanteurs que je suis allé voir, il y a un moment où l'air de rien, il glisse un R roulé, parce que faire le R comme ça serait trop dur. Toujours les chanteurs aujourd'hui, il y a un moment où il y a un petit R qui roule.
Ça s'est arrêté après traîner, quoi. Et même lui-même encore le faisait.
Bah, Piaf, on voit qu'elle elle commence à l'abandonner, mais Barbara... Elle glisse des R roulés de temps en temps. C'est... Je crois que presque tout le monde le fait, mais en douce, comme ça. Alors qu'à l'époque, les arborait comme ça. Alors, il y a une chose, c'est aussi la diction.
Ouais.
Et vous, c'est pareil. Quand vous chantez, vous faites extrêmement attention à l'articulation et à la compréhension du texte.
Il faut, Enfin, j'ai toujours fait très attention au texte, tout en souhaitant la rare fois où j'ai dit, la seule fois où j'ai dit à Étienne, puisque on débutait tous les deux et on allait commencer à travailler ensemble, et que lui arrivait de nulle part et moi aussi, je lui ai cité justement Bob Dylan et les Beatles. Je lui ai dit, je vois pas pourquoi on met les chanteurs dans des tiroirs, pourquoi on pourrait pas avoir des musiques qui bougerait, enfin bon. Et puis des textes signifiants. Mais c'est ça, oui, le texte signifiant. Et puis, ça fait partie de la tradition française qu'il faut garder.
Mm-hmm.
Mais il y a des choses dont il faut passer le flambeau. Par exemple, moi, je pourrais très bien mettre là, dans cette chanson-là, on entend un truc, c'est typique français. C'est les fins. Ta-da-di-di-da-di-da. Que d'ailleurs, une fin. D'abord, moi, je cracherai pas dessus, si elle se présente comme ça un jour, et on la retrouve dans plein de trucs. Mm-hmm. Mais c'est des choses à passer, je trouve.
Et des petites variations, vous avez remarqué aussi,
transmettre.
Les petites variations.
Ouais.
Les arbres. Il y a un moment où tout d'un coup, il y a une petite appoggiature.
Ouais.
Comme ça, sur une note.
Et c'était quelle époque, Francis Carco, là, que j'adore?
C'est des années 30. C'est des poèmes écrits vers 1900, mais mis en musique
beau,
dans les années 30.
Ah, magnifique,
c'est
vraiment ça.
C'est l'Armanja.
Ah oui.
C'est un monsieur qui était entre le classique et la chanson. Hein.
Ah bah
c'est,
voilà.
C'est, voilà, c'est voilà. Les culs entre deux chaises, comme
bah
ça.
Voilà. Et ça, c'est magnifique. Mais vous savez que souvent, les gens qui ont le cul entre deux chaises, ils font des trucs vachement bien. Mais il y a un type que j'adore en ce moment dans la musique américaine qui s'appelle Rufus Wainwright. Bon, il est connu par peu de monde. Il a quelques grands fanatiques dans le monde, je pense. Il n'est pas très, pas super connu. Il a quand même rempli le casino de Paris, à Paris. Et j'en parlais l'autre jour avec Biolay, qui naturellement, Biolay connaît tout. Alors, donc il m'a dit, mais ça vient d'où cette musique? Parce qu'il ressemble à personne, ce type. Bah, il m'a dit, je t'annonce quand même qu'il connaît Schubert par cœur. Alors donc, voilà, tout d'un coup, j'ai eu la réponse à ma question. C'est un type, c'est un jeune type, hein, c'est un très jeune homme. Mais il y a là-dedans un mélange. Moi, je crois que souvent, quand il y a un mélange de deux musiques comme ça, ça donne quelque chose d'intéressant.
Le mélange des réfugiés, c'est quoi? C'est tout d'un coup Roda qui vous force à chanter la chanson politique?
Ah non, c'est moi qui lui demande ça, parce que c'est cet engagement que j'ai auprès du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, l'UNHCR. Et je voulais beaucoup que dans ce disque-là, si possible, il y a une chanson sur les réfugiés, c'est difficile. Hein. Moi, je pense qu'on peut écrire des chansons sur tout, encore faut-il arriver à bien les faire, et que ça soit une bonne chanson, plutôt qu'un manifeste. Bon. Ah, il était certain qu'en demandant ça à Étienne, il le ferait à sa façon, comme il a toujours tout fait. Mais il est quand même né dans un camp de réfugiés. Puis je me suis dit, peut-être ça va faire appel chez lui. Mmh. Quelque chose. Donc, il parle souvent de la guerre d'Espagne. Il parle pas souvent. Enfin, je sais pas s'il en parle avec vous, mais moi, il parlait pas souvent de cette enfance là-bas, cette naissance à Montauban, tout ça. Bon. Et donc, évidemment, il a traité ça à sa façon, qui est de toute façon originale. Voilà. Donc, je voulais beaucoup qu'il y ait une chanson là-dessus.
Étienne Roidagil pour le texte, Julien Clerc, chant et musique.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut oublier, renoncer même au passé. Et abolir la mémoire. Comment faire un livre d'histoire. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous, tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Hiver, printemps, automne, été. Nous sommes tous des réfugiés sur cette terre qui est notre terre, qu'il faudra bien un jour partager. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour. Le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Nous sommes tous.
Alors, on est sur France Culture. Donc, on est sur une radio où les gens savent que Marceline Desbord-Valmore, ce n'est pas une top modèle. Mais c'est la grande femme poète française, le Victor Hugo des femmes. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir que dans un album précédent, vous aviez mis un poème de Marceline Desbord-Valmore en musique. Et ce qui m'avait énormément touché, c'est que vous le chantez comme si c'était un texte qu'une jeune fille venait de vous apporter.
Ouais, ouais, ouais.
Vous ne prenez aucune distance, vous n'essayez pas de...
Non, non je sais, j'ai été là-dessus à bonne école, si on peut dire, parce que le chanteur préféré de ma mère, c'était Brassens. Mm-hmm. Et l'alliage chanson et poésie, poésie qui devient une chanson, après de façon incontournable, c'est-à-dire que quand on lit ce texte, eh bien, la musique qu'a fait le type vous revient aux oreilles.
Quand on lit la prière de James, voilà. On a tout de suite la musique dans l'oreille.
De Brassens. Bon. Ouais. Et donc, à mon sens, c'est lui qui l'a fait le mieux 10 fois sur 10. Mm-hmm. Léo Ferré l'a bien fait, mais
pauvre
pas toujours.
Pauvre rue de bœuf, c'est pas si mal
quand même. Les trucs d'Aragon, il y a deux, trois trucs extraordinaires. Oui. D'autres fois, je me permets, des trucs un peu plus paresseux, où il y a une espèce de talk-over sur des harmonies, où il n'y a pas vraiment une recherche de faire une chanson avec la poésie, c'est-à-dire avec un truc qu'on retient, enfin une chanson populaire. Ben Brassens les a toutes réussies, y compris, je l'ai entendu dans le dernier concert de Maxime, là où il mettait tout une espèce de concert, il faisait des faces B, si vous voulez, eh bien, des trucs de Musset absolument magnifiques que je connaissais pas. Je connaissais les Victor Hugo, enfin comme tout le monde, Mangasti, Belza et autres. Oui. Là, et les Paul Fort, qui sont absolument magnifiques. Donc, quand il était question de mettre une musique sur un poème, pour moi, la marche à suivre, c'était Brassens. Voilà. Essayer d'en faire une chanson, ma foi.
Avec ce poème de Marceline Desportes-Valmore, à un moment, vous arrivez dans le parler-chanter, dans le Sprechen Gesang, presque. Vous chantez et c'est juste à la limite de la déclamation.
Ouais. Bah pourtant, je l'ai voulu. Qu'est-ce que je l'ai travaillé, cette mélodie ? J'ai cherché vraiment à ce qu'elle soit vraiment musicale et que chaque note soit justement... Parce que je déteste la poésie parlée, en fait. Je trouve que c'est paresseux.
Mm-hmm. Quand on prend bien raison.
Voilà. Il faut que ça soit... Pour faire une vraie mélodie une poésie, quoi. Donc, peut-être dans l'intention, mais je pense qu'il y a vraiment une note en dessous... Et je m'étais vraiment donné du mal là, quand j'avais travaillé ça au piano.
On vous écoute chanter la douce Marceline Desportes-Valmore que vous avez mis en musique, Les Séparés. Bonsoir donc.
Bonsoir.
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. C'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur.
C'était Chanson Boom, Dimitri Scapolan, Patrick Molinier,
Hélène Azera. Bonne nuit à l'écoute des programmes de France Culture.
N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 mai 2006. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.